Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est pour nous un plaisir, nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler de la gouvernance des hydrocarbures, quels sont les défis et opportunités. Maître Georges Bokundu est en ligne. Maître, bonjour.
Bonjour.
Maître Georges est le directeur des programmes à Sarwa, l'Observatoire des ressources naturelles. En Afrique australe, avec lui, nous allons parler de la gouvernance des hydrocarbures, les défis et les opportunités. Nous recevrons également M. Joseph Pilipili, secrétaire général honoraire aux hydrocarbures. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des tracasseries sur les routes nationales. Comment lutter contre cela? André Tshikoji, président de la Fédération des ouvriers des transports routiers du Congo, sera avec nous dans cette émission à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Dieudonné Nyangassa assure la mise en onde de Tati Mapoukou, est à la coordination et la réalisation au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Okapi Service qui s'intéresse aujourd'hui à la gouvernance des hydrocarbures. Vous savez, la RDC dispose d'un énorme potentiel pétrolier et gazier selon les experts. Cependant, la production pétrolière journalière varie entre 20 000 à 25 000 barils par jour. Voilà, c'est la production journalière et contribue à environ 500 millions de dollars au budget national. Les pays voisins comme le Congo Brazza et l'Angola produisent respectivement 350 000 barils et 2 millions de barils par jour. La production pétrolière congolaise, si on la compare avec les pays voisins, est encore sous-développée selon les participants à la première conférence sur le pétrole organisée dernièrement à Kinshasa par Sarwa et ACF. Alors comment améliorer la gouvernance du secteur pétrolier en RDC? Quels sont les défis? Quelles sont les opportunités? Maître Georges Bokundu est directeur de programme à Sarwa, l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe. Maître Georges, ravi de vous retrouver dans cette émission au Capi Service. Vous avez organisé dernièrement une conférence sur les hydrocarbures. Quelle a été votre motivation?
Merci beaucoup, Jody. Je pense que les hydrocarbures, c'est un des secteurs extractifs de notre pays. C'est au même titre que le secteur minier. Et vous allez voir que dans le secteur minier, c'est tous les jours que nous avons des discussions, nous avons des débats. Et c'est un secteur où les parties prenantes sont réellement engagées. Mais par contre, dans le secteur des hydrocarbures, ce sont des cas rares qu'on voit des discussions sur la gouvernance de notre secteur des hydrocarbures. Les débats, les discussions amènent aussi quelques idées et qui peuvent améliorer la politique publique dans certains domaines qui constituent des domaines économiques d'un pays. cela nous pousse ou cela nous a poussé à faire cette réflexion, cette discussion. Et comme vous l'avez dit, lorsque nous nous comparons à d'autres pays, il faut toujours faire la comparaison parce que le Congo-Brazza, comme vous l'avez dit, c'est presque 8 milliards de recettes du budget qui vient principalement du secteur des hydrocarbures pour une population qui avoisine 5 millions avec 350 000 barils par jour. Mmh. Et l'Angola, n'en parlons pas, vous l'avez vous-même dit. Mais ça doit inciter un pays, un État. Nous sommes dans la joie. Et juste quand on faisait notre table ronde, que le gouvernement ait pris la décision de chercher comment promouvoir le secteur des hydrocarbures dans notre pays. Et que peut-être avec ça, et surtout lorsqu'on respecte certaines dispositions légales, nous pouvons aussi renflouer nos caisses de l'État et que notre budget peut aussi augmenter. Voilà un peu l'objectif pour lequel nous avons tenu à organiser cette conférence avec notre partenaire ACF.
Bien, et la loi portant régime général des hydrocarbures a totalisé 7 ans. Quel bilan vous avez fait par rapport à cette loi lors de cette table ronde?
Vraiment, nous pouvons même arriver à dire que c'est presque un bilan zéro. Je me permets de le dire. Peut-être parce qu'aujourd'hui, on peut ajouter un pourcentage du fait que maintenant, on peut appliquer notre loi avec l'appel d'offres qu'on a lancé avec les CPP ou les contrats de partage de production qu'on pourra signer. Et nous espérons que lorsque les soumissionnaires vont le faire, le processus pourra aller un peu vite par rapport à ce que nous connaissons, pour qu'un CPP soit approuvé, c'est des délais du temps extraordinaire qui prend, sans compter le temps pour cet opérateur de faire même l'exploration. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous qui avons été comme acteurs, avions participé dans le processus de l'adoption de l'élaboration de cette loi, on peut considérer qu'on n'a pas appliqué cette loi jusqu'au jour. On n'a pas appliqué la loi. Vous prenez juste un simple exemple. On a promulgué le code minier révisé en 2018 et 3 mois après, donc après juin 2018, on a commencé à appliquer le code minier. Aujourd'hui, les ETD qui sont dans la section desquelles sont implantées des compagnies minières, aujourd'hui recouvrent des redevances minières. L'État perçoit, les fonds miniers commencent à avoir de l'argent. Donc pourquoi dans le secteur minier, cette application-là, cette loi-là, qui a été prise il y a juste 3 ans, aujourd'hui c'est 4 ans, a une très bonne ça continue à être appliqué, mais une loi qui date de 7 ans, on l'applique pas. Quels sont les pesanteurs? Nous tous, nous nous posons la question. Et ça n'a pas encore incité les opérateurs. Pourquoi? Donc, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose.
Oui. Maître Georges, dites-nous, quels sont les défis qu'il y a aujourd'hui dans le secteur des hydrocarbures en RDC?
Bon, les défis sont grands. Je pense que nous sommes dans un secteur des hydrocarbures où il y a un seul opérateur, même s'ils sont en consortium, qui fait cette production que nous considérons toujours trop minime, moins de 25 000 barils par jour pendant plus de 30 ans, si c'est 40 ans. On est toujours dans cette production-là. L'autre défi, c'est que nous n'avons pas valorisé nos potentialités qui existeraient dans notre pays. Est-ce que c'est un problème de gouvernance ou c'est un problème de volonté politique ou c'est un problème d'immensité du territoire? Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser comme un facteur qui pourrait peut-être retarder le développement du secteur des hydrocarbures dans notre pays.
Voilà, mais le gouvernement a fait un appel d'offres, tout ça, pour que les gens viennent soumissionner par rapport à l'exploitation pétrolière. On a au moins 30 blocs à exploiter. Alors on peut dire que c'est un début du développement de la RDC avec cet appel d'offres.
Bon, dire le début de développement de la RDC, c'est peut-être trop. Dire les débuts de développement du secteur des hydrocarbures, peut-être. Nous devons apprécier la volonté du gouvernement. Et ce que nous avons demandé en tant qu'ONG, c'est que le gouvernement tienne compte de toutes les questions environnementales et que la loi soit respectée. Il faut mettre en valeur ce que nous avons comme potentialité. Nous n'allons pas garder les potentialités dans les sous-sols, nous devons l'exploiter, mais dans les normes. La loi sur les hydrocarbures, je me souviens, lorsque nous étions arrivés dans cette question de l'impact, des impacts environnementaux, c'était des débats énormes pour adopter cet article. Et je pense que l'aménagement qui avait été fait peut permettre à l'État de faire ce qu'il peut faire, d'utiliser ce que nous avons comme potentialité. Mais le problème, c'est de ne pas lancer, ce n'est pas de lancer seulement l'appel d'offres, c'est de finaliser cet appel d'offres et d'avoir aussi des opérateurs qui ont des capacités techniques et financières capables de développer un bloc pétrolier. Je pense qu'on n'aura pas de commissionnaire. L'analyse qui doit être faite dans les dossiers des appels d'offres doit être des analyses vraiment rigoureuses, pas de favoritisme. Et ce que nous demandons, c'est qu'il n'y ait pas d'influence politique là-dedans, qui est vraiment une question de rentabilité économique que nous tous nous attendons. Et que la loi sur les hydrocarbures soit au moins cette fois-ci respectée, les règlements des hydrocarbures soient respectés. Il faut aussi savoir comment attirer les investisseurs, quelles garanties que nous devons offrir à ceux qui vont soumissionner. Toutes ces questions-là doivent être prises en compte dans ces dossiers d'appel d'offres.
Oui. Par exemple, d'après vous, quelles sont les dispositions de la loi qui ne sont pas toujours mises en application? Vous pouvez citer quelques dispositions?
Non, je vous dis, je ne peux pas citer. Je ne connais pas une disposition qui a été appliquée. Si déjà dans notre loi, on a dit qu'on ne devait pas avoir un régime conventionnel, mais nous avons encore des conventions qui ont des avenants. Bon, c'est peut-être un avis de la Cour suprême de l'époque, mais c'est déjà un problème, la loi minière. On a donné des délais pour que les conventions de l'époque puissent disparaître. Ces conventions ont existé selon la volonté de la loi. Et aujourd'hui, ces conventions n'existent pas. La question des transparences, la question des appels au séminaire, aujourd'hui, comme on peut le constater, les contenus locaux, les questions, il y a plusieurs questions dans cette loi qui a réussi à un moment donné des grandes propositions venant de la société civile qui ne sont pas encore d'application. Les fonds pétroliers ou quoi que nous avions mis là-bas, on ne l'a jamais appliqué. Donc, il y a beaucoup. La loi en général, je peux vous rassurer que la société civile avait vulgarisé cette loi-là. Bon, nous sommes toujours dans l'inquiétude. Nous attendons, espérons que ça va maintenant être appliqué.
Voilà. Donc, le secteur n'est pas toujours, n'est pas encore développé par rapport aux autres pays, Congo-Brazzaville, l'Angola, etc., qui sont déjà, l'Angola par exemple, qui a 2 millions de barils par jour, c'est extraordinaire. Est-ce que, en Angola, qu'est-ce qui a fait par exemple que de l'autre côté, les choses marchent bien de cette façon-là?
Non, en réalité, tout dépend de la politique d'un pays. Regardez, l'Angola avait abandonné son secteur minier. Il a privilégié son secteur des hydrocarbures, il ramène beaucoup d'argent. Tu ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, l'Angola, c'est comme on l'est, il est parmi les grands producteurs du monde. Ne parlons pas qu'il est parmi les deux premiers producteurs africains. Mmh. Et c'est de la manne pétrolière, c'est de l'argent qui sont des cash qui permet à un pays d'avoir suffisamment de budget pour développer son pays. Donc l'Angola a fixé sa politique économique sur les hydrocarbures, avec une grande compagnie pétrolière, l'Angola qui est dans tout, qui n'est pas un simple collecteur de royalties, non, il est dans la sous-traitance, il est dans les services, la société est dans les services, la société régule, parce qu'il a un capital très important, un budget très important. Donc l'État angolais a vu que dans son secteur économique, il faut mettre l'accent sur un secteur qui est un grand pourvoyeur du budget de l'État. Mais nous avons concentré nos efforts sur le secteur minier, qui n'est pas mauvais, qui donne beaucoup d'emplois, mais qui n'apporte pas suffisamment de moyens comme les deux pays, comme l'Angola. Même si on compare avec seulement le Congo-Brazzaville, on vous amène avec 350 000 barils par jour, on vous amène un budget de 8 milliards. Mais vous avez 225 000 barils par jour. Non. Les recettes actuelles ne sont même plus à 500 millions. Ça descend. Les 500 millions, nous les comptions vers les années 2007, 2008-2010, sans rabais. On est autour de tantôt 300 millions. Regardez dans les budgets, dans les rapports de l'ITS. Donc, les 25 000 barils là-bas, il y a aussi beaucoup de facteurs qui poussent. Mais mettez-vous en tête, avec tous ces bassins sédimentaires que nous avons, que nous puissions les développer. Nous ne détruisons pas notre nature, mais parce qu'il y a beaucoup d'espace où nous pouvons le faire sans beaucoup d'impact. Mais je vous dis, même si on multipliait par 10 la production actuelle, atteindre même 250 000 barils par jour. C'est juste un simple exemple, parce qu'on peut aller au-delà de ça. Si on a 250 000 barils par jour, un simple calcul de multiplication va vous dire, nous avons aujourd'hui 300 millions, c'est-à-dire que si on multiplie par 10, nous pouvons atteindre 3 milliards.
Bien, donc l'Angola produit 2 millions de barils par jour et les recettes pétrolières représentent 90% du budget national qui tourne autour de 35 milliards de dollars pour une population de 29 millions. On va accueillir Monsieur Joseph Pilipili. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général honoraire aux hydrocarbures.
Exact.
Nous parlons aujourd'hui de la gouvernance des hydrocarbures, les défis et les opportunités. Alors d'après vous, quels sont les défis auxquels nous faisons, la RDC fait face par rapport aux hydrocarbures?
Les défis sont nombreux. Nous allons commencer par la formation de cadres. Il faudra vraiment qu'il y ait des cadres bien formés dans le secteur pour une industrialisation pétrolière conséquente. Ça, c'est le premier défi. Le second, c'est par rapport aux mesures d'application de la loi. Nous sommes obligés d'aller de la loi elle-même en passant par le décret de mesures d'application et aux arrêtés ministériels jusqu'aux circulaires et même aux communiqués et autres documents qui peuvent servir aux fonctionnaires d'appliquer la loi. Alors, il y a le troisième défi, c'est celui qui concerne la prospection, l'exploration et évidemment la mise en production des blocs qui sont ouverts à l'exploration. Voilà.
Et jusqu'à ce jour, on n'a qu'un seul exploitant dans les secteurs, d'après les informations reçues.
Oui, en fait, on est... On a bien sûr Perenco qui produit, mais on a aussi Showstream qui a commencé les travaux, qui va commencer les travaux de forage, qui était encore en phase d'exploration. Maintenant, ils vont passer vraiment au forage dans le bloc Yema, toujours dans le Bas-Congo.
Alors, le gouvernement vient de lancer un appel d'offres pour l'exploitation pétrolière. On a au total une trentaine de blocs à travers le pays.
Tout à fait. En fait, à travers le pays, on a plus que ça. On doit avoir bien une centaine de blocs au finish.
Une centaine.
Mais, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que les blocs, évidemment, ils sont découpés en fonction des données géologiques, géophysiques et géochimiques. Mais si vous n'avez pas ces données, vous risquez d'avoir des blocs qui ont des dimensions exagérées. À l'époque, il y avait des blocs qui avaient 50 000 km². Puis, nous sommes descendus à 25 000 km², alors que les vrais blocs doivent être au-delà, en deçà de 500 km². Donc, vous voyez, nous sommes encore très haut. Je crois que avec les processus d'exploration, des rendus et autres, on arrivera à avoir plusieurs blocs dans d'autres pays. Voilà.
Et il semble qu'il y en a même au niveau du lac Albert, le lac Tanganyika, on a du pétrole.
Tout à fait, c'est-à-dire que en fait on a trois bassins. Il y a le bassin côtier évidemment dans le Bas-Congo, il y a la cuvette qui prend pratiquement toutes les provinces, et puis il y a la branche ouest du rift est-africain, c'est-à-dire qui prend le lac Albert, les lacs Édouard, les lacs Kivu, les lacs Tanganyika, les lacs Moero, les lacs Kupemba. Donc vous voyez bien que par rapport à ces six lacs, on a bien un potentiel important. Voilà.
Voilà, on a un potentiel important, mais qui est encore sous-exploité, ou inexploité si on peut le dire.
Il risque de rester potentiel si on ne fait pas d'efforts, parce que quand on regarde l'historique, on s'aperçoit que l'exploration a commencé dans la branche ouest du rift est-africain en 1920, mais jusqu'à aujourd'hui on est nulle part. Et dans la cuvette, les années 50, jusqu'à aujourd'hui, on est nulle part. Dans le bassin côtier, à 59, jusqu'à aujourd'hui, au moins dans le bassin côtier, il y a une production. Donc, si nous pouvons faire les mêmes efforts, surtout l'effort par rapport aux signataires, Parce que quand quelqu'un vient, il négocie avec vous, et que si vous devez attendre 10 ans pour lui signer un contrat, là, ça vaut pas la peine. Donc si vous le faites en un temps record, déjà que si en 6 mois vous pouvez traiter un dossier, c'est déjà une bonne chose.
Ben, il semble que ceux-là, par exemple, qui vont gagner les marchés, c'est pas tout de suite qu'ils vont exploiter le pétrole, ça. Il faut d'abord la prospection, ça prend du temps, ça demande énormément de moyens pour trouver là où se trouve le pétrole.
Tout à fait, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions, on utilise toutes les techniques, hein. Donc c'est un peu comme les médecins font de la consultation sur les corps humains, les géologues et les géophysiciens doivent, les géochimistes doivent faire la consultation sur la Terre.
Ça, donc ils amènent c'est du matériel important là.
Ah oui, il y a des avions où interviennent, des bateaux peuvent intervenir, des camions où, dans lesquels il y a des équipements, des drones et ainsi de suite. Il y a même les satellites interviennent, donc on a beaucoup de données à voir. Et quand vous avez toutes ces données, vous pouvez les compiler et commencer à interpréter avant de passer au forage.
Donc ça veut dire que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre à peu près combien d'années
Ça dépendra. Ça dépend des blocs. Si sur un bloc on a suffisamment de données 3G comme nous les appelons, c'est-à-dire géologie, géochimie, géophysique. Et que il ne manque plus qu'un puits, ça peut aller rapidement, mais dans nos blocs il y a pas tout ça, rien. Donc il faudra se dire que les gens les compagnies vont commencer par faire de la géologie, puis de la géophysique, puis de la géochimie, et enfin commencer à produire. Ça peut prendre pour une découverte, pour des gens qui sont vraiment pressés et qui veulent aller assez rapidement, ils peuvent en 3 ans faire une découverte. En trois ans, ils peuvent faire une découverte. Mmh. En 5 ans, ils peuvent déjà commencer à voir s'ils peuvent développer. Et en 10 ans, normalement, ils doivent avoir finalement circoncis les gisements et décider finalement de mettre en production.
Mmh. Maître Georges, qu'est-ce qu'il faut d'après vous pour améliorer la gouvernance du secteur des hydrocarbures?
Vous savez, lorsque nous avons fait les discussions lors de notre table ronde, nous avons presque analysé plusieurs aspects du secteur des hydrocarbures, notamment les cadres légaux. Parce que la première des choses, il faut faire respecter les cadres légaux. Et s'il y a des problèmes dans ces cadres légaux, il faut les revoir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'il y a importance d'avoir cette loi de 2015, ou alors on revient sur la loi de 1981 qui était déjà devenue obsolète. Donc si on veut que notre gouvernance pétrolière soit réellement une gouvernance qui est rationnelle, il faut d'abord appliquer la loi. Il faut compléter toutes les mesures d'application ou toutes les mesures d'exécution de cette loi, directement des hydrocarbures. Ça, c'est la deuxième chose, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder la gouvernance sur le terrain. Toutes les questions des impacts sur la communauté, sur le développement, vous ne pouvez pas être d'accord lorsqu'on s'est dit dans le secteur minier, il y a des redevances qui sont payées en faveur des communautés ou des ETD, mais dans le secteur des hydrocarbures, il n'y a pas cette gouvernance. Mais vous allez toujours vous dire que non, la province du Congo central n'a jamais perçu de rétrocession sur les hydrocarbures, c'est des hydrocarbures. Mais cela permet à ce que les coins où on exploite les choses puissent évoluer. Nous avons été informés qu'il y aurait 10 millions de dollars que le gouvernement aurait accepté de donner au niveau de la commission, et que dans l'exécution, dans la mise en application des projets de cette commission. On est même étonné qu'il y a même des députés dans la commission pour voir dans quelle mesure on va gérer ces fonds. Mais s'il y a un avis, et qui va interpeller le ministre lorsque le député serait déjà là-dedans? Bon. Ce sont des choses qui arrivent et dans la mise en application ou dans l'exécution de certains projets. Oui. Il y a effectivement quelques efforts qui sont faits par la compagnie qui s'y place, mais qui est toujours considérée comme insignifiante. C'est pas possible. Est-ce que c'est parce que la production est aussi insignifiante ou la manne n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'on donne ou on arrive à travailler avec la cocodème qui a changé le nom aujourd'hui? Donc il y a plusieurs aspects. Il faut négocier avec des majors pétroliers. Il faut les inciter à venir, parce que quand on les incite, on les garantit aussi la sécurité de leur investissement. Nous pouvons avoir ces activités partout. nous pouvons avoir les activités là où nous avons établi des blocs. On peut même pousser, mais même un ou deux, trois blocs. Ça peut nous produire des hydrocarbures à une production un peu élevée qui peut permettre à ce que l'État contrôle et nous aurons peut-être dans la masse là, des activités là, avoir peut-être d'autres problèmes que nous pouvons améliorer et amener à changer notre politique des hydrocarbures.
Bien, voilà ce que je peux dire. D'accord, on va accueillir les auditeurs. Malonga de Bandundouville et Héritier nous appelle de Bounia. Malonga, bonjour.
Bonjour à nos invités qui sont là et à tous ceux qui nous suivent.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la gouvernance des hydrocarbures?
Ok, merci d'abord. Aujourd'hui, vous allez me donner un peu de temps pour remercier d'abord ce gouvernement ici. C'est comme si tous existaient, mais tous les ministres qui passaient là, tous les gouvernements qui passaient là, ne faisaient pas vraiment cas à cette situation vraiment noble et géniale dans la population RD congolaise. En tout cas, je remercie. Puisque j'ai suivi le ministre aussi d'Itel qui s'est expliqué que ce bloc les a trouvés déjà bornés, donc depuis longtemps, ce n'est pas lui qui a inventé ça, mais ça existait depuis longtemps. Alors, je me demandais lorsque j'ai suivi cette information, je disais, donc ce bloc était là, et nous sommes en chômage, et les pays souffrent comme ça. En tout cas, merci à Tshisekedi. Merci à Tshisekedi, vraiment.
Bon, ce que je veux. Quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui, la question, c'est. L'invité vient de dire là-bas que. Non, ce n'est pas des trentaines de blocs, mais c'est 100. C'est 100 aussi. Ouvrez les choses seulement. Alors, qu'est-ce que nous, la population, pouvons entendre? Il vient de dire encore que, non? Avant de débuter ça, on va commencer par la formation des cadres. Bon, cette formation des cadres nous va commencer à quand et comment est-ce que nous pouvons déjà se préparer à ça, puisque c'est notre chose. Le ministre, madame la vice-ministre de l'Environnement, elle a dit qu'en tout cas, ça n'aura pas de l'impact contre l'environnement, puisqu'on sera vraiment parallèle avec ce ministère, et puis on ne pouvait pas garder seulement les ressources pour faire souffrir nos compatriotes.
Alors Malonga, quelle est la question rapidement, les autres attendent, quelle est la question que vous adressez aux invités?
Oui.
Donc vous voulez savoir quand est-ce que la formation des cadres va commencer parce que ça vous intéresse.
Ok, quel critère?
D'accord, merci. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aux invités.
Quelle est votre préoccupation?
Trois aspects sur l'aspect environnemental, les communautés qui sont autour de ce bloc pétrolier, ainsi que les sociétés qui vont pouvoir gagner le marché. Ok, la première question est de savoir quel va gagner les communautés sociales dès lors qu'on va procéder à l'exploitation
de... Oui, la communication se détériore. Merci d'avoir appelé Monsieur le secrétaire général honoraire Joseph Philippili. Vous avez suivi l'impact sur la communauté. Par exemple, à Mwanda, Perenco exploite, mais quelles sont les retombées pour en faveur de la communauté locale?
Mais les retombées sont importantes. En tout cas, si on regarde bien ce qui est prévu comme rétrocession au niveau de Mwanda, c'est de l'argent qui a permis la construction des écoles, des hôpitaux, et également de projets d'adduction d'eau ont été financés par ce canal. Mais c'est quand même faible, parce que vous savez, si l'État avait décidé à l'époque qu'on mette annuellement $50,000 à la disposition des communautés locales, ça c'est pour construire peut-être deux bâtiments ou trois, donc c'est rien du tout. Mais on est au fur et à mesure en train de monter, on arrive à 100 000, à 300 000, jusqu'au jour où on pourra compter les millions, là, évidemment, l'impact sera visible. Dans la mesure où les communautés locales ont des préoccupations. Donc, il faudra que les communautés locales disent quelles sont les priorités. Dès qu'on a décidé des priorités, la compagnie décaisse l'argent et on réalise les priorités suivant les désirs des populations locales.
Or, on a suivi, par exemple, les représentants de la société civile de Moanda qui continuent à se plaindre. On ne ressent pas toujours l'impact d'après
tout à
la
fait.
Société civile.
Tout à fait. C'est-à-dire que le budget tel qu'il est réservé à cette communauté est vraiment minime. Je crois que on ne peut pas avoir un impact visible avec ce genre de budget. Si, comme le président de la République a décidé de mettre 10 millions à la disposition de cette communauté, nous pensons que le territoire de Moanda pourra rivaliser au territoire de Cabinda peut-être à la fin de l'exécution de ce budget. Voilà.
Et l'impact sur l'environnement, la pollution, etc., comment limiter les effets, quoi. La pollution.
En fait, les effets pour les limiter, il faudra vraiment qu'on développe des projets d'utilisation de gaz, de valorisation du gaz. Parce que le gaz qui est brûlé à la torche contribue à l'effet de serre. Et le fait que le vent qui vient également de Soyo amène ces genres de produits chimiques qui sont à l'intérieur de gaz, en particulier le benzène. Mmh. Vous savez, quand quelqu'un commence à respirer du benzène, les conséquences sont énormes. Sur les maladies pulmonaires et autres. Donc nous pensons que l'impact est quand même là. Si on peut, au niveau africain, on a décidé que chaque pays puisse mettre en place un projet de valorisation de gaz brûlé à la torche, si nous pouvons arrêter tout ce torchage et transformer ce gaz en électricité, ne serait-ce qu'en électricité, déjà nous aurons une réduction de coupe de bois. Donc on peut fournir l'électricité à tout le monde et puis on gagnerait de l'argent avec cette électricité.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière et Jean-Claude depuis Kindu. Nous parlons de la gouvernance des hydrocarbures, quels sont les défis et opportunités. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Gouvernance des hydrocarbures en RDC, quels sont les défis et opportunités? Nous en parlons avec Maître Georges Bokundu, qui est le directeur des programmes de SARWA, l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe. Et nous avons également dans ces studios Monsieur Joseph Philippili, secrétaire général honoraire aux hydrocarbures. Nous avons deux auditeurs en ligne, Safari depuis Gabarrière, Annie Touri et Jean-Claude nous appellent des Kindu dans la province du Maniema. Safari, bonjour.
Bonjour, bonjour aussi à monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, le domaine pétrolier, étant donné que moi je ne suis pas de la banque, parfois quand vous parlez, je ne me retrouve pas devant certains mots, entre autres les barils. Hein. Donc, les barils, c'est quoi par définition? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci, Julie.
Merci. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, je vous dis. Bonjour aussi aux invités, Maître Georges, le secrétaire général honoraire.
On vous écoute.
Oui, en fait, moi, j'ai juste une petite question aujourd'hui. Je voudrais demander aux invités qui sont là, est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour respecter ou pour avoir des impacts environnementaux? Parce que moi, je sais que partout au monde, surtout dans notre pays, où les lois ne sont pas totalement appliquées, nous avons de bonnes lois, moi je pense que nous avons même une loi sur les hydrocarbures. Est-ce que on peut au jour d'aujourd'hui se taper la poitrine pour dire que non, tous les impacts seront respectés, les communautés aussi vont se retrouver? C'était moi ça mes petites préoccupations. Parce que nous savons que surtout ici chez nous à l'Est, où nous avons des problèmes sérieux, si la bonne gouvernance, si les problèmes sécuritaires, et je ne crois pas que les communautés vont se retrouver. Et aussi les impacts sur les plans environnementaux. vont être respectés comme il se doit. C'était au moins ça mes petites préoccupations aujourd'hui. Merci, bonne journée chez vous.
Bien, merci Jean-Claude. Maître Georges, à vous la parole.
Non, merci beaucoup. Je crois que la question de Jean-Claude, c'est une inquiétude que tout le monde a aujourd'hui. Est-ce que tous les ingrédients sont réunis? Bon, je peux dire qu'il faut peut-être, je ne peux pas dire oui, comme non aussi. Peut-être qu'il faut donner confiance au gouvernement et nous devons être des grands observateurs pour dire que nous, voilà, vous nous avez promis ceci, mais voilà, à la fin du processus, que les ingrédients n'étaient pas encore totalement réunis, vous avez fait peut-être de la précipitation. Mais il ne faut pas oublier que nous avons quand même ces blocs pétroliers depuis longtemps. Je crois que le secrétaire général connaît l'histoire des hydrocarbures dans notre pays. Les questions des impacts, nous avons vu défiler la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui continue à nous garantir, espérons que nous n'aurons pas de problèmes demain, parce qu'elle pourra répondre si les exploitations qui vont être faites ne tiennent pas compte les questions environnementales importantes. Bon, voilà ce que je peux dire. Je pense, dans toutes les activités d'extraction, il ne manque jamais d'impact. Le problème, c'est de minimiser ces impacts, de les rationaliser et de se conformer aux textes en vigueur. Merci.
Bien. Monsieur Joseph Philippe.
Oui, par rapport aux impacts, je crois que il est clairement établi que dans le monde entier, on essaie de produire, l'industrie a évolué énormément. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand on exploite du pétrole, on se dit, comme a dit Monsieur Georges tout à l'heure, qu'il y aura, quelles que soient les conditions, un impact sur l'environnement qu'il faut minimiser. Alors, nous avons constaté que dans le monde, il y a deux grandes forêts, la forêt amazonienne et la forêt de la cuvette centrale. Mmh. La forêt amazonienne, on produit des hydrocarbures là-dedans, sauf dans la cuvette centrale. Donc, si déjà on produit du pétrole dans la forêt amazonienne, qui est la plus grande par rapport à la nôtre, c'est que effectivement, on peut également produire du pétrole chez nous en respectant les mesures sur l'environnement. Et également, c'est ce qui se dit, ces gens nous racontent tous les jours que nous, on enfouit environ 80% de CO2. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous produisez du CO2 pour vous enrichir et vous développer, et vous me demandez à moi de nettoyer votre CO2 pour m'appauvrir. C'est pas logique. Oui, c'est-à-dire que si l'Occident ou tous les autres pays qui veulent que nous on continue de conserver du CO2 pour eux et qu'ils nous remplacent cet argent-là, c'est-à-dire qu'ils mettent à la disposition de la RDC 100 milliards de dollars par an pour dire vous conservez la nature, bon, prenez 100 milliards, nous allons former nos gars à autre chose au lieu de les former dans le pétrole. Donc nous pensons que le débat par rapport aux ONG de l'environnement, ils exagèrent un tout petit peu, hein, ils disent pas la vérité, et s'ils disaient la vérité, on n'exploiterait pas en Ouganda dans le même parc Virunga. En Ouganda, il y a deux puits, nous avons visité, les sangliers passent à côté de puits, donc un puits de pétrole, c'est pas comme une carrière minière. Nous, un puits de pétrole, c'est un truc sur une petite dimension, et on a aujourd'hui des techniques, on collecte toutes les essences qui sont autour du puits, on les met dans un serre, on les fait grandir. Quand on a terminé le puits, on le replante, puisque le puits, lui, n'aura besoin peut-être que de quelques 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés de superficie à occuper. Donc, je crois que la crainte est un peu exagérée quand même, hein. Il y a pas beaucoup de crainte. Et puis, ces gens-là le disent simplement pour embêter le gouvernement de la RDC. C'est-à-dire que c'est pas pour le développement du pays, parce que regardez nos amis qui produisent du pétrole sur le bassin côtier, l'Angola.
L'Angola, au Congo, Brésil. Comment ça se passe là-bas, Jésus?
Bon, ben, évidemment, ils essayent de respecter l'environnement, puisque ce qu'ils obtiennent, c'est plus que ce qu'ils peuvent dépenser pour protéger l'environnement. Donc voilà.
Bien, il y a un auditeur qui vous demande c'est quoi le baril. On parle du baril et lui, il comprend pas de quoi il s'agit.
Le baril, c'est en fait 159 litres de carburant dans un récipient. En fait, si on l'appelle baril, c'est simplement parce qu'à l'époque, il avait servi pour l'exportation du vin. les Européens produisaient du vin qu'ils amenaient en Asie dans des touques qu'on appelle barils, qui ressemblent un peu au baril actuel. Évidemment, pas au baril actuel, mais parce qu'au début également, quand il n'y avait pas de grands bateaux, c'est-à-dire les grands bateaux citernes qu'on appelle les tankers, on amenait du pétrole dans le bateau, mais pas dans la cale, mais dans des barils. C'est pourquoi le terme est resté, baril est resté.
C'est 159
litres. 159
litres,
un baril c'est 159 litres, voilà.
D'accord. On va accueillir Franck de Lubumbashi, ingénieur Léonard, voilà, il est également dans la même ville. Franck, bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
J'aimerais d'abord féliciter le gouvernement pour cette initiative. Et c'est vraiment très louable et tout le monde doit soutenir. Ma question est celle-ci. La première, quelle est la raison ultime que les ONG, les organismes, tout ça refusent pour que la RDC puisse exploiter le baril de pétrole dont on est en train de faire allusion? La deuxième question, quelle garantie de la bonne gouvernance que les gouvernements peuvent nous donner que cette exploitation pouvait profiter à la population? Merci.
Bien, ingénieur Léonard, vous êtes aussi à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Ok, ça marche. On va faire une petite remarque à la radio Okapi.
Oui.
Quand une émission passe en rediffusion, il faut le signaler, puisque quand quelqu'un arrive en cours, je pense que l'émission est en direct. Ça, c'est la remarque.
D'accord, merci. Elle est bien reçue.
Ma préoccupation, c'est de savoir. Notre invité a parlé de 3 ans d'exploration. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on détermine tous ces blocs-là? Sans précision pour dire que dans ce bloc, il y aura du carburant ou bien du pétrole, on précise. Mais je dis bien qu'avec la nouvelle technologie en pointe actuellement, est-ce qu'un investisseur sérieux peut faire une année et demie sans précision pour récupérer son argent? C'est un peu ça ma préoccupation.
Merci Léonard. Maître Georges.
Oui. Donc, il y avait une question là. Je crois qu'il disait quelle est la. C'est Franck, hein? Il disait que quelle était la raison légitime des ONG pour cette question.
Voilà, les ONG qui sont montées au créneau pour dire que l'exploitation pétrolière risque d'avoir un impact sur l'environnement. Et puis, ils demandent quelle est la garantie que la manne pétrolière va profiter à la population congolaise.
Oui, pour sa deuxième question, ça c'est le gouvernement qui devait répondre. Moi, je suis de la société civile. Le gouvernement, tous, nous avons cette inquiétude-là. Et il faudrait que le gouvernement donne des garanties parce que le gouvernement a avancé même des montants que l'appel d'offres pourra donner. Et donc, c'est de la manne que nous estimons que la gestion doit être à son niveau maximum. Donc, par contre, par rapport à la première question, je pense que les ONG ont ces mêmes inquiétudes. Ils ont la crainte que l'exploitation ne vienne pas détruire tout l'écosystème que nous avons. Ils ont cette crainte-là parce que le gouvernement de la RDC a pris des engagements aux différentes réunions de la COP et consorts. Et ils ont aussi la crainte parce qu'on estime, avec l'ancien système de l'ancienne technologie, et surtout des blocs qui se retrouveraient dans ce qu'on appelle le patrimoine mondial de l'UNESCO, pourrait être détruit, donc les parcs et consorts. Donc c'est ça la crainte des ONG. Et si cela est détruit, donc nous allons perdre tout ce qui est comme la biodiversité dans notre pays et ça va nous créer des problèmes. La crainte là doit attirer plutôt l'attention du gouvernement avec ses partenaires qui vont aller là-dedans pour dire que non, il y a la sonnette d'alarme qui a été tirée par la société civile, par les ONG, pour qu'on ne puisse pas détruire notre environnement, notre écosystème. Et que s'il y a de nouvelles technologies, on garantit que non, notre biodiversité, notre écosystème ne va pas être détruit. Par contre, l'exploitation tiendra compte de ça. Les partenaires peuvent aussi garantir, peuvent aussi promettre, sans pour autant respecter. Et le malaise, c'est que quand les partenaires ne respectent pas, les opérateurs ne respectent pas, quelque part, on a toujours la difficulté parce que la sanction ne suit pas. Alors que dans la loi, il y a plusieurs dispositions qui sanctionnent certains comportements des opérateurs. Voilà en deux mots ce que j'allais dire.
Bien, Monsieur Pilipili, Monsieur Léonard de Lumbashi dit, est-ce que si un investisseur met son argent en une année et demie, est-ce qu'il peut déjà récupérer?
Non, non, ce sont des investissements à long terme. Donc, il faut se dire que, comme quand on prend un bloc dans la cuvette, par exemple, pour arriver jusqu'à produire du pétrole, vous devez injecter là-dedans au moins 1 milliard de dollars. Donc, vous ne pouvez pas récupérer 1 milliard de dollars en une année. Non. Nous pensons donc que par rapport, c'est que c'est une industrie très capitalistique qu'il faut vraiment beaucoup de moyens et que quand les compagnies viennent, c'est vraiment comme s'ils allaient en guerre avec tout l'équipement, tout ça change. Il faut construire des cités, il faut des routes, il faut arriver à l'endroit où on travaille.
C'est des très gros investissements.
Mmh. C'est pourquoi justement l'inquiétude qu'il avait par rapport au travail, par rapport aux communautés locales, déjà qu'il y a un contenu local qui sera là, c'est-à-dire qu'il y a des travaux, il y a de petits marchés qui vont se faire, par exemple pour la livraison de la nourriture, pour les nettoyages.
La sous-traitance.
Sous-traitance qui peut servir justement aux communautés locales. Mmh. Et je crois que par rapport à cela, c'est déjà bon. Mais pour la récupération, vraiment, il faut attendre la production. C'est quand on a produit, qu'on a commencé à vendre son pétrole brut, qu'on commence à récupérer son argent.
Est-ce que notre pétrole sera raffiné sur place ou bien ça va aller ailleurs?
Dans les différents projets d'implantation des industries de raffinage en RDC, on a pensé à l'époque à trois pôles. Il y avait l'ouest avec évidemment Moanda. Nous avions le nord-est avec Litori, quelque chose comme comment ça s'appelle la grande ville de Litori là.
Bounia.
Pas Bounia mais l'autre. Ça va venir. Oui. Et puis nous avons pensé au sud dans le Katanga également de faire une raffinerie. Donc comme ça s'il y a un problème dans le Bas-Congo, on peut approvisionner l'ensemble du pays par le nord. Mmh. Et s'il y a des problèmes dans le nord et dans le sud, dans l'ouest, le sud peut approvisionner également. Je crois que si on a ces trois raffineries, il y aura moyen pour que le pétrole coûte moins cher en RDC. Et donc, tous le coût lié aux services, aux transports et tout ça pourront également être revus à la baisse.
Les auditeurs sont revenus sur la manne pétrolière. Lorsque la production sera lancée, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle profite, c'est les recettes, les retombées, puisse profiter à toute la population, développer le pays?
Ah, c'est certain, hein, c'est-à-dire que quand vous regardez bien les niveaux de production de certains pays, si vous arrivez à produire 1 million de barils ou 2 millions de barils comme l'Angola, et que vous pouvez dans votre budget avoir 30 milliards de dollars, je pense que vous couvrez déjà l'ensemble du budget d'un pays. Donc si nous avons un budget comme cela, et comme aujourd'hui le créneau c'est le développement à la base, pour les 145 territoires, c'est ça.
145 territoires.
Donc, si vous voyez,
la corruption continue à battre le plein, on risque de ne pas avoir cela.
Non. C'est qui est bien pour le pétrole, comme pour d'ailleurs l'exemple de Perenco est visible, c'est que quand on a produit, on a vendu directement l'argent. Va dans la caisse de l'État. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ce qui est intéressant. Alors que dans certains secteurs, comme la mine artisanale et tout ça, il est difficile de tracer un tout petit peu les recettes. Mais pour le pétrole, c'est clair. On traite entre la banque centrale et la compagnie. La compagnie vire l'argent directement à la banque centrale. Et les services de l'État ne font que constater que l'argent a été viré.
Selon la loi, le secteur pétrolier est géré par le chef de l'État.
Non seulement par le chef de l'État dans le monde entier. Le pétrole étant une matière très stratégique, dans le monde entier, cette matière est gérée par le chef de l'État. C'est pas une exception chez nous.
C'est pas une exception, c'est partout.
Non. C'est dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Exactement.
Voilà. Maître Georges, on est presque à la fin de cette émission. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Monsieur Pilipili a parlé tout à l'heure de la formation des cadres, qu'on doit également tenir compte de cela pour améliorer la gouvernance. Il y a la loi, les mesures d'application, etc., la prospection. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à tout cela, Maître Georges?
Oui, merci beaucoup, Jordi. Il faudrait savoir que d'ici là, nous allons rendre public des rapports de notre table ronde sur la gouvernance du pétrole. Il y a beaucoup de recommandations là-dedans qui pourront contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des hydrocarbures de l'ADC. Je le répète, il faut dans tout pays qui se respecte, lorsqu'on a une loi, il faut la mettre en application. Et c'est important. Il faut former les gens, comme M. Pilpil a dit. Et je vous dis curieusement, les pétroliers payent ce qu'on appelle, ils donnent de l'argent pour la formation des Congolais. Il y a de l'argent qui est dans les budgets qui sont publiés, de l'argent qui est publié dans les rapports de l'ITIE. Ça peut contribuer à la formation. Il y a plusieurs autres aspects. Il faut développer le secteur comme les autres le développent dans leur pays. Lorsqu'on sait qu'ici, on peut avoir de l'argent, on peut mettre des mécanismes de gestion corrects et le pays peut aller de l'avant. Il faut sanctionner là où il faut sanctionner. Il faut contrôler notre système de la production des hydrocarbures que nous ne maîtrisons toujours pas. Les compagnies seules produisent, les compagnies seules exportent, les compagnies seules déclarent. C'est là, ce système de déclaration, ce système déclaratif congolais que nous avons, ça a toujours un impact sur l'attente ou les attentes de la population congolaise. Voilà en gros ce que je voudrais résumer.
Bien, Maître Georges Bokundu, directeur des programmes à Sarwa, l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe. Merci et excellente journée.
Merci beaucoup.
Bien, on va conclure avec vous, Monsieur Pilipili, par rapport à la gouvernance des hydrocarbures. Vous avez dit comme défi, la première chose, c'est la formation des cadres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il existe des structures aujourd'hui en RDC?
Il y a la faculté des sciences des universités de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani qui s'y mettent déjà. Mais nous avons la faculté de pétrole et gaz également de l'université de Kinshasa. Et nous avons surtout l'Institut de pétrole et gaz délimité qui a formé beaucoup de gens en Afrique centrale. Des Camerounais, des Congolais, des Gabonais, des Angolais. Voilà. Je crois que par rapport à la formation des cadres, nous avons déjà un creuset qui est là, qui peut recevoir une industrie. Donc,
parce que l'exploitation, on aura besoin de la main d'œuvre.
Voilà. On est vraiment une main d'œuvre qualifiée existe maintenant en RDC. Il ne manque plus que les investisseurs pour venir la découvrir et commencer à faire le travail. Je crois que l'État est parti ou le gouvernement a lancé au bon moment. Ça fait 5 ans pratiquement qu'on produit des ingénieurs pétroliers dans notre pays. 5 ans, je dis. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans.
7 ans déjà.
Exact, voilà.
Voilà, donc on n'attend plus que les meilleurs gagnent et dès qu'ils vont avoir le marché bon, on espère que après 3 ans, vous avez dit, on peut déjà espérer.
Beaucoup d'espoir, oui, beaucoup hein, 3 d'espoir. Ans. Mais je pense que déjà avec ce que Chaussure est en train de faire, d'ici la fin d'année, on peut déjà avoir une découverte dans notre pays.
Bien, Monsieur Joseph Pilipili, secrétaire général honoraire aux hydrocarbures, merci.
Je vous remercie aussi.